chers frères et sœurs, je ne sais pas si nous réalisons la chance que nous avons ce dimanche. C'est assez exceptionnel parce que grâce à l'apôtre Jean, nous plongeons dans la prière même de Jésus. La prière, c'est quand même assez personnel, hein, les filles. Quand on prie, on voit les gens, ils ont les yeux fermés. Oh, c'est pas ce qu'ils disent au Seigneur. C'est très, très, très intime, la prière. C'est le plus intime dans le cœur de l'être humain. Et là, nous avons la chance d'entrer dans la prière même du Christ. Et dans cette prière, nous découvrons quel est le grand rêve de Dieu pour l'humanité. Quel est son rêve, son plus grand désir? Eh bien, nous l'entendons, Dieu rêve de rassembler tout le genre humain en une seule et même famille. Son rêve, c'est un rêve d'unité. Et nous découvrons en même temps que cette unité n'est pas d'abord une œuvre humaine. Nous entendons Jésus qui implore l'unité, qui remercie le Père de donner cette unité. En fait, cette unité est d'abord et avant tout et essentiellement un cadeau de Dieu. Frères et sœurs, vous allez me dire, ah ben, ce cadeau, on ne le voit pas beaucoup dans le monde, j'entends les refrains qu'on peut entendre, mais j'ai envie de vous dire, regardez l'unité que Dieu nous donne déjà. Bien sûr, elle n'est pas parfaite. Et dans chaque messe, on prie pour que Dieu conduise son Église à l'unité parfaite, comme vous allez l'entendre tout à l'heure. Mais il y a déjà quelque chose qui est donné. Tous les dimanches, un miracle. Vous êtes là, des centaines dans la paroisse, des gens très différents, aux convictions complètement opposées sur plein de choses, et vous êtes assis sur le même banc. Qui réalise ce miracle en France chaque semaine? L'Église. Seulement l'Église. Et ça dure depuis 2000 ans. Inutile de vous dire, frères et sœurs, que personne n'en est capable humainement. Quel être humain pourrait faire cela? Aucun. Nous voyons que ça vient de plus loin, ça vient de lui. Dieu réalise déjà l'unité dans son Église, même si c'est encore imparfait, bien sûr. Mes frères et sœurs, pourquoi est-ce imparfait? Ce qui divise l'Église, ce ne sont pas nos différences, c'est notre péché. En réalité, pour réaliser cette unité, Dieu a besoin en premier de réaliser l'unité de chacun de nous, notre unité intérieure. Et ça, nous le savons tous, c'est jamais gagné non plus. C'est pas si facile. Comment ça se passe? Ça se passe mal. Parce que la modernité nous a fait croire que nous allions pouvoir vivre simplement corps et esprit. Comme je vous l'ai dit dimanche dernier, l'être humain est composé non pas simplement d'un corps, ce qui est assez évident, et d'un esprit qui s'occupe de régler les choses de la vie et des connaissances scientifiques. L'être humain est aussi animé d'une âme. Nous ne sommes pas simplement des organes empilés les uns sur les autres. Il y a quelque chose qui donne un souffle vivant à tout notre être, et c'est notre âme. Et cette âme, comme le dit François Tchang, est reliée au souffle vital. C'est elle qui donne la vie. Elle est reliée à celui qui nous dépasse, à celui qui nous crée à chaque instant. Et la modernité nous a laissé penser que cette âme, dont le propre est le domaine de l'amour et de la créativité, par exemple artistique, eh bien que nous allions pouvoir nous en passer, que nous allions trouver un bonheur tout matériel, corps et esprit, et ça suffit. Et vas-y que c'est la technique qui va te donner ton plaisir et ta joie. Mensonge. Nous nous réveillons un peu hébétés après toutes ces années où nous y avons cru, pour beaucoup, y compris nous un peu les chrétiens, soyons honnêtes. Mais nous nous réveillons en nous disant, c'est pas ça. La technique ne tient pas ses promesses. Elle ne donne pas la joie qu'elle promet. Et donc, il faut revenir à ce cœur du cœur de notre être qui est l'âme. Dieu vient nourrir cette âme. Il vient la dilater, il vient la déployer. Et alors, quand notre âme revit, tout l'être retrouve son équilibre. Vous savez qu'en France, nous sommes quand même les champions du monde, quasiment, de consommation d'anxiolytiques. 66 millions de boîtes par an, c'est quand même énorme. Voilà le résultat quand on cherche à vivre sans l'âme, ou avec un tout petit peu d'âme. L'être humain perd son centre de gravité, parce que son centre de gravité n'est pas son nombril. C'est son créateur. Et quand on n'a plus ce centre-là, on est bourré d'angoisse. On ne peut plus trouver la paix. Alors on essaye de la fabriquer, de la produire, de manière chimique. Mais c'est passager. Ce qui nous redonne la paix en profondeur, c'est de retrouver l'axe fondamental de notre être, qui est le Seigneur. Frères et sœurs, vous allez me dire, oui, mais alors, très bien, et comment on fait concrètement? Ben, concrètement, c'est ce qu'on a entendu dans la première lecture. Dans la première lecture, on voit Pierre qui organise l'Église, qui gère l'Église. Mais souvenez-vous qui est Pierre, un traître. Il a trahi Jésus dans un des pires moments. Jésus avait besoin d'être entouré, accompagné. Il avait fondé son Église sur Pierre. Et bien, dans un des pires moments de la vie du Christ, Pierre renie Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi, des fois, je me dis, mais vous imaginez si en direct à la télé, le pape François reniait le Christ? Ça nous ferait quoi? On dirait, mais il est cinglé. Il est possédé. Et bien, c'est exactement ce que Pierre a fait. Il a trahi, comme Judas a trahi. Mais il y a une grande différence, et vous le savez. C'est que Judas a vu son péché, mais il en a désespéré. Parce que celui qui lui a montré son péché, ce n'est pas l'Esprit Saint. Il n'a pas regardé son péché dans la lumière de Dieu, il a regardé son péché dans la lumière de Satan, qui lui a dit « Tu ne vaux rien, tu as trahi Jésus, tu es un vaurien. » Et donc, il faut te supprimer, la tentation de la mort. L'accusateur nous montre notre péché pour nous désespérer et pour nous tirer du côté du néant et de la mort. Pierre, lui aussi, a vu son péché, mais dans la lumière de l'Esprit Saint. C'est tout différent. Et dans le regard de Jésus, il sent ce pardon, cette miséricorde. Il sent qu'il peut revenir, qu'il peut revenir. Et il revient. À ce moment-là, Pierre fait une expérience de miséricorde tellement forte qu'il retrouve toute l'unité intérieure de son être. C'est comme ça, ensuite, qu'il peut servir l'unité de l'Église. Il devient le premier pape. Et il va servir l'unité. Mais voyez que la condition première, elle est là. Voilà. Et on a tant de mal à se dire ça. On voit toujours le problème chez les autres. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont divisés, ceux-là, machin. Bah, t'as vu, c'est pas la joie, hein, dans telle communauté, tel machin. Ouais, mais attends, et là, c'est la joie ou pas? Eh ben, c'est pas sûr. Vous savez, ça me fait penser à cette bande dessinée où il y a une dame qui parle à sa meilleure amie. Alors, la meilleure amie en question est assez forte. Et donc, la dame dit à sa meilleure amie assez forte, « Tu sais, cette année, j'ai pris une grande résolution. » Parce que bon, j'ai pris conscience que, en fait, c'est vrai que quand je parle, je suis pas très sympa. Donc cette année, j'ai pris la résolution d'être bienveillante. Et elle regarde son amie un peu forte et elle lui dit « Et toi, j'imagine que c'est de perdre du poids, ta résolution, non ?» Voilà. Mais vous voyez, frères et sœurs, comme on se fait vite illusion à nous-mêmes. Voilà, on se dit « Allez, ça y est, maintenant, ah, du calme, on reste des pauvres. On a besoin de la miséricorde, sans cesse, tout le temps. » Et vous savez que la miséricorde est une urgence dans notre vie. Je vous l'ai raconté déjà, et ça m'a beaucoup marqué. Je vous le dis souvent, rien n'est plus urgent, rien n'est plus important que le sacrement de la miséricorde. Vous pouvez le demander à un prêtre, où vous trouvez, quel que soit l'endroit, peu importe. Mais quelque part, le prêtre, il ne peut jamais vous le refuser. Il n'y a rien de plus urgent. Et vous vous souvenez de cette histoire de Théophile, au début d'une messe, dans ma paroisse, à Romans. Au début d'une messe, il y avait 400 personnes qui attendaient et tout. Théophile qui se lève, qui me dit « Père Damien, je voudrais me confesser ». Quand est-ce que ça sera possible? Je lui dis, Théophile, tout de suite. Il me dit, ah bon, tout de suite? Et je pars confesser Théophile. Je lui donne le sacrement du pardon. À la fin, je lui dis, t'es tout beau, tout propre, tu peux communier tout ton cœur. Il part avec le sourire, ce gaillard de 18 ans. 3 jours plus tard, j'étais au JMJ en Pologne. Les parents m'appellent. Théophile s'est tué en moto. Il est parti. Et d'abord, j'ai pas réalisé. J'ai plus pensé. Sincèrement. D'abord, les confessions, j'oublie tout, la preuve, je ne sais même plus. Puis au bout d'une heure, je me dis, mais attends, Théophile, mais je l'ai confessé dimanche. Je rappelle les parents. Je dis, attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Théophile, dimanche, il a reçu le sacrement du pardon. Ses parents s'en étaient même pas aperçus, et sa mère me dit, c'est un magnifique cadeau parce que c'était mon anniversaire. Voilà, il m'a fait un beau cadeau d'anniversaire. Théophile, il est parti le cœur propre. Ça change tout quand même. Hein. Je vous assure que ça change tout. Hein. Les funérailles, c'est pas les mêmes. Hein. En se dire, bon, bah, il est parti comme ça, et se dire son cœur était prêt à rencontrer son Seigneur. C'est pas pareil. Et la réponse pour chacun de nos cœurs, frères et sœurs, elle est entre nos mains. Dieu frappe à la porte, comme vous le savez, il ne force pas la porte. Seigneur, nous nous confions à toi. Viens refaire l'unité de chacune de nos vies, et l'unité de toute ton Église, de nos familles, de notre pays aussi. Amen.